Alors ça, c'est passionnant bah, de voir comment Matthieu, le scribe par excellence, à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament, fait ce prologue. Et je crois qu'on a déjà tout compris quand on voit le premier et le dernier mot. Quel est le premier mot du prologue ?
Généalogie.
Alors là, il est dans la ligne de tous les scribes qui, dans le livre des chroniques, par exemple, vous feuilletez le livre des chroniques, vous avez des généalogies à n'en plus finir. Bon, dont le but est de montrer que toute l'histoire sainte a un sens, c'est-à-dire à la fois une signification et une direction. Tout converge vers Jérusalem, vers la dynastie davidique et vers le temple. Matthieu reprend cette filière et il va faire un chapitre rythmé sur le chiffre 14. Vous vous rappelez le premier chapitre de la Genèse qui est rythmé sur le chiffre 7. Ici, il veut, dans le Nouveau Testament, faire comme un chapitre rythmé sur 2 fois 7. Et le dernier mot, non pas de la généalogie, hein, le dernier mot de ce prologue, qu'est-ce que c'est ?
Fils de Dieu.
Non, le dernier mot du prologue, alors c'est très mystérieux. Apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place d'Hérode, son père, Joseph craignit de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth. Pour que s'accomplit l'oracle des prophètes, il sera appelé Nazoréen. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça ? Généalogie ? Du Nazoréen. Oui, ça fait inclusion. Alors, Nazoréen, on a beaucoup épilogué sur ce mot. Certains vont chercher Netzer, certains pas le rejeton, certains pensent à Nazir, mais un Zayn, un Tzadé, c'est quand même pas la même chose. Moi, ici, je me range à ce que le Père Benoît présente comme une hypothèse, mais qui, pour moi, est devenue une évidence. Quand on voit le texte hébraïque, ça fait partie du langage du serviteur. Et vous trouverez, si vous avez envie d'approfondir, ce que dit le Père Benoît, dans la grosse synopse noire, le tome 2, page 66, parce que, pas Nazareth, on n'en parle pas dans l'Ancien Testament. Il faut attendre le 2e siècle après Jésus-Christ pour c'est une inscription qu'on a retrouvée à Césarée. Ça fait allusion à une famille sacerdotale qui, après la ruine du temple, s'est retirée en Galilée à une ville appelée Nazareth. Bon, alors manifestement, c'est un jeu de mots. Hein. Alors, pour le Père Benoît, il pense que ça vient de la racine Yatsar ou de la racine Natsar. Yatsar, c'est un terme, c'est le potier qui de ses mains fait créer. Vous avez déjà vu un potier au travail, ça fait partie du langage des cosmologies. On voit une masse de glaise, ça tourne et puis une masse, ça devient quelque chose de très harmonieux par des mouvements imperceptibles des doigts. Ou bien alors ça peut venir de Natsar, qui veut dire garder. Le nun étant une consonne fluente, elle tend à disparaître. Et dans le langage du serviteur, ou dans Jérémie, et sorera. Je t'ai formé ou je t'ai gardé. Alors je vais tout de suite au texte qui est le plus évocateur. Il y en a d'autres que vous pourrez approfondir. Au chapitre, dans Isaïe, au chapitre 42. Moi, Dieu, je t'ai appelé dans la justice. Je t'ai saisi par la main et je t'ai modelé. Ici, il a opté pour la racine Yatsa. On pourrait dire aussi, je t'ai gardé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier, de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Et puis, c'est trop peu que tu sois pour moi, au chapitre 49, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Moi, je suis persuadé que le Père Benoît tient le bon bout lorsqu'il pense que ça fait allusion au langage du serviteur. Autrement dit, Matthieu reprend toute l'histoire sainte, depuis Abraham, notre père dans la foi, et puis il montre que tout ça converge vers celui que Dieu a formé, vers celui que Dieu a gardé, pour que malgré tous nos refus, eh bien, l'Écriture s'accomplisse. Et alors, dans ce périple que nous faisons aujourd'hui, depuis l'Hérodium, on balaye du regard le désert de Juda et puis l'endroit le plus profond du globe où nous évoluions vendredi dernier. Et rappelez-vous tout ce qu'on a vu. On dirait que ce prologue ressemble étrangement au festin que Matthieu fait après sa conversion. Le prologue a l'air de ramasser toute l'humanité au plus profond de la terre là, pour l'amener au Nazoréen que Dieu a modelé, que Dieu a façonné, que Dieu a gardé envers et contre tout pour que s'accomplisse. Et c'est comme ça, je crois, que Matthieu rend compte de son drame personnel. C'est le drame de Saint Paul dans l'Épître aux Romains, on l'a déjà parlé. C'est le drame de Jésus qui pleure devant Jérusalem. C'est le drame de Saint Matthieu, ce bon scribe qui s'appelait Lévi, qui ne comprend pas. Et alors, tirant de son trésor de l'Ancien et du Nouveau, il rédige cette généalogie du Nazoréen.